Voilà, donc aujourd'hui, je pensais que c'était tout à fait approprié de continuer sur la thématique de ce coronavirus et du drame de ce virus et comment nous, on doit l'aborder en tant que personne. Et donc, j'ai intitulé mon message ce matin « Consolation dans la calamité ».« Consolation dans la calamité ». Je connais quelqu'un dont le dernier paiement pour l'achat de sa maison est prévu le mois prochain. Tout irait bien pour les années de retraite devant lui, et donc il avait hâte de pouvoir faire ce dernier paiement le mois prochain. Et pendant les derniers 20 ans, l'économie allait relativement bien, sa santé était bonne, bref, tout paraissait rose pour l'avenir. Et puis, quelque chose d'étonnant est arrivé, le coronavirus. Alors, notons bien que cette personne n'a pas été contaminée à ce jour. Merci Seigneur. Et donc, on peut dire que quelque part, par contre, que ces projets d'avenir sont en suspens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous et moi, il est confiné chez lui. Il se demande s'il aura encore son travail demain. L'économie s'est effondrée devant ses yeux il y a quelques jours, voire quelques semaines. Bref, un cataclysme planétaire a ébranlé son monde, comme celui de 3 milliards de personnes dans le monde qui aujourd'hui sont confinées. La question se pose, que réserve demain? Cet homme réalise aujourd'hui que la sécurité qu'il pense avoir il y a encore un ou deux mois en arrière, eh bien, est presque irréelle. Il ne sait même pas si peut-être il sera contaminé. Bon, je ne veux pas exagérer, mais il ne sait même pas s'il pourrait être mort dans quelques semaines. Ça, que Dieu le sait, même si les statistiques montrent que plus de 85 personnes qui sont contaminées s'en sortent parfaitement bien. Mais ce que je veux souligner, c'est que la peur est là. La peur est bien réelle. L'incertitude est là, l'angoisse est là. Soudainement, très soudainement, eh bien la vie a pris un virage radical et inattendu pour lui, comme pour chacun de nous. Et il faut le dire, c'est facile d'avoir la boule au ventre. En cette période vraiment étrange, on l'a tous expérimenté. Beaucoup de gens sont effrayés. Alors bien aimé, la question que je voudrais poser ce matin, c'est comment devons-nous réagir? Y a-t-il un remède pour apaiser cette angoisse, pour chasser cette crainte, pour éliminer cette boule au ventre qui peut carrément nous donner des ulcères? Comment faire pour vivre avec la paix dans nos cœurs dans cette période d'angoisse terrible? Comment vivre sereinement dans cette période de tragédie humaine? Comment rester calme lorsqu'on entend des nouvelles catastrophique autour de nous? Y a-t-il une solution concrète pour apaiser mes émotions fébriles et mon âme angoissée? Eh bien, la réponse est oui. Oui. Et la réponse se trouve dans un psaume, le psaume 46. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir au psaume 46 que j'aimerais lire. Le psaume 46. Dit ceci. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler la montagne. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'eux et ne s'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez. Contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une haute retraite. Alors, comme vous le savez probablement, les psaumes étaient des cantiques ou des chants. Il y en a 150 dans la Bible. Et ce sont des chants qui ont été, bien sûr, écrits par inspiration de Dieu pour aider Israël à célébrer toutes sortes d'événements dans leur vie quotidienne. Alors, il y a plusieurs types de psaumes, et celui-ci est un psaume qu'on appelle un psaume de triomphe ou de louange, qui est le premier d'une trilogie, les psaumes 46, 47 et 48. Alors, les psaumes, ce psaume a pour sujet la protection du peuple de Dieu au milieu de grands dangers. Alors, l'auteur n'est pas spécifié. Certains pensent que c'est le roi David qui l'a composé, parce qu'il en a composé beaucoup d'autres. Tandis que d'autres, comme Jean Calvin, par exemple, pensent qu'il fut composé lors de la défaite de Sennacharib dans 2 Chroniques 32. Quoi qu'il en soit, le psaume 46 est un psaume de triomphe et un des plus beaux psaumes dans le recueil des psaumes. Alors, le titre du psaume, si vous voulez, se trouve au verset 1. Au verset 1, il est dit « Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth cantique ». Alors, nous voyons premièrement, quand il dit « Au chef des chantres », que ce psaume était bien destiné à être chanté. Il nous montre qu'à l'époque, il y avait celui qui menait les chants, le chef des chantres, qui menait la chorale, d'accord, dans la louange au Dieu, à Dieu, par les fils, ici, appelés les fils de Corée. C'est la deuxième ligne, il dit des fils de Corée. Les Coréites étaient une branche importante de chanteurs parmi les Lévites. Ça, on le voit dans 2 Chroniques 20 et le verset 19. Les Lévites étaient responsables pour le service du temple qui incluait mener les chants. Donc, il y avait une très grande et belle chorale menée par ce chef des chantres. Alors, il y a le mot qui dit « sur Alamoth ». Alors, la traduction littérale de ce mot hébreu « Alamoth » est « sur les jeunes filles ». Et ces psaumes devraient vraisemblablement être chantés avec des voix de jeunes filles, donc des hautes voix de soprano ou de soprano bien adaptées à louer Dieu là-haut. Donc ça, c'était le but. Et ensuite, on apprend que c'est un cantique, donc c'est un chant à la base. Alors voilà le titre. Alors maintenant, la question se pose, quel est le thème de ce psaume? Le thème. Alors le thème du psaume 46 se trouve en examinant finalement la structure du psaume. Alors il y a plusieurs observations très très intéressantes. La première chose que vous allez remarquer, peut-être que c'est le genre de choses que vous sautez lorsque vous lisez un psaume, il y a un petit mot qu'on retrouve trois fois, qui est une clé. C'est le mot « pause ». Pause. Il apparaît au verset 4, à la fin du verset 4, 8 et 12. Alors ça, c'est une interlude musicale, mais qui montre qu'en fait, ce psaume est composé de trois sections. Les versets 1 à 4, pause, 5 à 8, pause, 9 à 12, pause. Donc il y a bien trois sections à ce psaume. Deuxième chose qu'on observe, c'est que le mot terre, le mot nation et le mot royaume se trouve dans chacune des trois sections, et le mot est décrit chaque fois de manière négative, dans le sens que la terre ou les nations ou les royaumes vont mal d'une manière ou une autre lorsqu'il est décrit ici dans le psaume. Par exemple, au verset 3, il est dit que la terre est bouleversée, au verset 7, les nations s'agitent et les royaumes s'ébranlent, et au verset 9, la terre est ravagée. Troisième observation, alors ça c'est quand même intéressant parce que ce psaume n'a que 12 versets, or le nom de Dieu apparaît en nom propre ou en pronom personnel 19 fois. 19 fois en juste 12 versets. Et donc il y a une application en plus, dernière observation qui sort clairement pour le lecteur. Au verset 3, on apprend « c'est pourquoi nous sommes sans crainte ». Au verset 8, « l'Éternel des armées est avec nous ». Et au verset 11, « arrêtez et sachez que je suis Dieu » et que je domine sur les nations et sur la terre. Alors là, on met tout ça ensemble et le thème ressort presque tout seul. Le thème est simple, le monde va mal, mais Dieu domine sur le monde, donc nous sommes sans crainte. Et voilà, bien aimé, pourquoi j'ai intitulé ce message « Consolation dans la calamité ». Consolation dans la calamité. Lorsque tout va mal autour de nous, lorsque la terre est bouleversée, lorsque le monde est dans l'angoisse, je suis sans crainte, je suis confiant, je suis en paix, je suis rassuré, je suis heureux. Mais vous dites, non mais John, c'est impossible, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, mais comment est-ce qu'on peut être heureux? Eh bien, le psaume 46, en fait, nous répond, c'est possible, comment donc? Ben, regardez le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Voilà ce que nous apprenons. Alors, quelque part, je viens de vous expliquer le psaume, on va le regarder en détail maintenant. Mais ce psaume, vous voyez, décrit d'un côté les tumultes planétaires qui poussent les gens à l'angoisse et à la crainte, et montre pratiquement comment le croyant, lui, peut rester calme et confiant lorsque le monde autour de lui est en panique générale. Ce psaume nous dit en fait que le croyant a, écoutez bien, il a un immense avantage très pratique sur le non-croyant. Pour le non-croyant, sa confiance ne peut aller aussi haut que lui-même. Hein, il est confiant en lui-même, ou peut-être à la chance, il dira, ou peut-être sur le gouvernement, ou prenons le cas du coronavirus que nous vivons actuellement, voire sa confiance est dans les médecins, ou dans les chercheurs qui pourraient trouver un remède ou un vaccin problème à ce virus. Mais pour le croyant, même si lui, il applaudit la recherche, il applaudit la médecine, il applaudit les gouvernements qui cherchent des solutions, sa confiance à lui ultime ne repose pas sur lui, ou bien sur eux, mais sa confiance à lui repose sur quelque chose qui est à l'extérieur de lui-même. Mais oui, sa confiance repose sur l'Éternel, le Créateur de ce monde. Et lors d'une calamité, quelle que soit sa forme ou sa sévérité, en se focalisant sur son Créateur, sur son Dieu, eh bien, il peut trouver cette paix qui lui est promise. Et donc, soyons concrets et pratiques, dans ce psaume, le croyant découvre trois effets bienfaisants de se confier en l'Éternel en heure de crise. On va voir trois effets bienfaisants de se confier en l'Éternel dans une heure de crise. Alors, quel est le premier effet bienfaisant de se confier en l'Éternel en heure de crise? Eh bien, le voici. Le croyant, premièrement, est rassuré. Le croyant est rassuré. Ça, on le voit dans les versets 2 à 4. Comme je viens de le dire, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Mais oui, comme on l'a déjà dit, la raison que le croyant peut expérimenter la paix en crise, c'est à cause de Dieu, le premier mot dans le verset 2. Alors, c'est le contexte qui est intéressant ici, d'accord? À partir du verset 3, il dit, quand la terre est bouleversée, alors là, il décrit en fait les problèmes de la terre, d'accord? Alors, quand la terre est bouleversée, c'est une expression vague, ici, dans l'hébreu, qui pourrait décrire un bouleversement politique ou même de révolution. Le bouleversement quelconque ici n'est pas spécifié. Alors, il pourrait être politique, géopolitique, de guerre, terrorisme, peut-être météorologique, voire médical, comme la pandémie de virus. Alors, donc ça, c'est la première partie, d'accord, du verset 3. Mais regardez, la deuxième partie, il dit, là, il a l'impression qu'il décrit un cataclysme, lui, par contre, plutôt physique sur Terre. Il dit que les montagnes chancellent au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Là, il est en train de décrire vraiment un truc, je dirais, un cataclysme naturel. Et là, probablement particulièrement, des tremblements de terre avec leurs effets sur les montagnes et sur la mer. Alors bien sûr, en lisant ça, moi j'ai tout de suite pensé, et peut-être vous aussi, au 26 décembre 2004. Vous en rappelez-vous ? En une minute environ, plus de 230 000 personnes ont été tuées en Asie du Sud, emportées par le plus grand tsunami de toute l'histoire, provoqué par un tremblement de terre sous-marin. Écoutez, lorsqu'une plaque tectonique de 800 km de long au fond de l'océan se lève brusquement de 7 étages, eh bien, cette masse d'eau soulevée doit aller quelque part. Où pouvait-elle aller? Eh bien, silencieusement et invisiblement, comme un monstre qui se réveille, cette eau fut poussée à 500 km/h vers les côtes pour se transformer en plusieurs vagues gigantesques et en emportant tout sur son passage. Maisons, arbres, voitures et tragiquement 230 000 personnes et en plus en faisant des millions de sinistrés. Voilà, je pense, le genre d'événement décrit dans les versets 3 et 4. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes s'encèlent au cœur des mers, et quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors moi, je pense qu'on peut élargir le contexte encore plus et parler de toutes les tragédies humaines dans le monde, ces tragédies où on n'a pas de pouvoir, pas de puissance pour changer. Combien d'autres types de tumultes planétaires avons-nous connus depuis ce tsunami? On a connu des tremblements de terre, on a connu la sécheresse, on en parle beaucoup de la sécheresse. Des inondations parfois. Il y avait un volcan à Hawaï qui a fait des morts incroyables. Il y a des ouragans dévastateurs, des feux de forêt absolument gigantesques avec, on parle beaucoup du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, ben c'est la dernière en date, c'est celle que nous vivons actuellement. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques mois en arrière. Le coronavirus, le Covid-19, une pandémie planétaire. Ah oui, bien sûr, le Covid-19 est différent des tremblements de terre, mais tout aussi dévastateur, voire potentiellement bien plus dévastateur. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de solution médicale, claire, fiable. Nous espérons qu'elles seront trouvées. Donc, le psalmiste, en décrivant tout ça, pose la question tout simplement à savoir où est-ce qu'on trouve du réconfort face à de telles tragédies? Où est le réconfort? Parce qu'on regarde à droite, on regarde à gauche, c'est la panique. Beaucoup de gens désespèrent devant ce type de drame. Mais c'est là où le psalmiste, dans le psaume 46, dit « Arrête ! Ne déprime pas ! Ne désespère pas ! Ne crains pas ! Ne sois pas anxieux ! Ne te laisse pas être paralysé par le problème ! Bouge ton regard ! Change ton regard ! » Pourquoi ? À cause du verset 2 qui dit « Dieu est pour nous, est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi, verset 3, nous sommes sans crainte. Alors, je trouve intéressant que le psalmiste ici ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Non, car pour lui, Dieu est une évidence. Alors, comment est-ce qu'il décrit Dieu? Premièrement, comme un refuge. Un refuge. Un refuge est un abri contre le danger, un rempart. Comme une forteresse dans laquelle un homme peut courir pour s'y réfugier. Dieu est notre forteresse. Imagine une forteresse du Moyen-Âge, on est dedans, on est protégé. Notre refuge, ça c'est notre Dieu. Nous pouvons être absolument sains et saufs. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais c'est ce verset qui a inspiré Martin Luther, le réformateur, à composer son célèbre cantique « C'est un rempart de notre Dieu ». Je vous lis les deux premières strophes, d'accord ? C'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armes et de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble l'audace, il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls, nous serions bientôt perdus. Dans ce péril extrême, un héros nous a secourus. Choisi par Dieu lui-même, celui qui nous sauva, qui est-il? Jéhovah. C'est Dieu fait homme, Jésus-Christ. Il se nomme, la victoire lui restera. Waouh, écoutez, franchement, chapeau Martin Luther, il a tout compris. Dieu est notre refuge, Dieu est notre forteresse. Mais le verset 2 l'appelle aussi un appui. C'est fort, c'est ce qui me renfort, je peux tenir le coup. Et un secours, ça c'est simplement l'idée d'une aide. Il vient nous secourir, il vient nous aider. C'est comme si je suis en train de me noyer, il y a un secouriste qui vient et il me sort, il me sauve. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Donc le verset 2 nous apprend que Dieu est notre refuge, notre appui, notre secours. Et regardez, et ça c'est intéressant, la suite. Qui ne manque jamais dans la détresse ? Qui ne manque jamais dans la détresse. Moi, ce que je trouve fascinant ici, Je pense qu'il ne faut pas rater ça ici. Écoutez bien. C'est qu'il ne dit pas dans ce verset que Dieu va nécessairement nous ôter ou nous enlever la détresse, ni nous ôter de la détresse. Il ne promet pas qu'il va enlever la détresse ou me sortir de la détresse. Non. Non, non. Il dit qu'il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, en somme, Dieu promet de traverser la détresse avec nous et nous aider dans la détresse. Et la suite souligne cela de manière poignante. C'est pourquoi nous sommes sans crainte au verset 3. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, et quand les flots des mers mugissent et écument, elles se soulèvent jusqu'à faire trembler la montagne. Chaque fois, c'est quand. Oui, nous sommes sans crainte quand les choses vont mal autour de nous, qui veut dire qu'elles vont mal autour de nous et qu'il ne m'a pas sorti de ce problème. Dieu n'enlève pas le psalmiste de la crise, non. Il dit qu'à l'intérieur de la crise, il est là et que nous pouvons être sans crainte. Pourquoi ? Parce qu'il est notre refuge dans les temps de ce genre. Donc, la leçon de ces premiers versets est simple. Lorsque nous sommes en crise, quelle qu'elle soit, inclut la crise actuelle du Covid-19, mon refuge ultime n'est pas la médecine, n'est pas le gouvernement, même pas mes mesures de protection que je suis en train d'appliquer autour de moi, parce qu'elles sont importantes. Ça, c'est le côté humain de notre vie, la responsabilité. Par rapport au médecin, c'est intéressant que Luc était bien médecin et voyage avec Paul, donc Paul avait un médecin à son côté. Paul avait bien dit aussi à Timothée de prendre un peu de vin pour son estomac dans 1 Timothée 5. Donc, dans ce sens-là, Paul a dit tant, pour ton problème, un peu de vin, ça va aider. Donc, la médecine est prouvée utile. Les médicaments sont une chose très bien. Ça, on le sait parce que l'homme a doté l'homme de pouvoir d'assujettir la terre pour son bien-être, selon Genèse 1:28. Il veut que l'homme prenne la terre et fabrique des choses, l'assujettisse. Et donc, les médicaments font partie de ces assujettissements de la terre. Et Jacques 1:17 nous dit que toute bonne chose vient de Dieu. Alors, oui, la médecine est bien, mais nous savons tous que la médecine a ses limites. Nous vieillissons tous. Notre corps devient de plus en plus malade avec l'âge. Je le sais, je commence à le sentir de plus en plus dans mon propre corps. Et nous savons tous, nous devons tous, à un moment donné ou un autre, mourir. La médecine ne peut pas arrêter la mort. Voilà pourquoi le croyant est avantagé sur plusieurs niveaux, car lui met sa confiance ultime dans le vrai et seul Dieu vivant, lors de son vivant, mais aussi quelque part lors de sa mort. Parce que pour lui, Philippiens 1:21 est clair, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Donc en fait, le chrétien est avantagé, parce qu'il va mieux sur terre, puisqu'il a un refuge en le Seigneur, mais il a l'espérance d'une vie éternelle, et donc il a vraiment le bénéfice partout, avant, maintenant, enfin maintenant et après. Et quel est le résultat de tout ceci? Eh bien, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Le psaume 27, 3 est très bien. Il dit ceci. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien. Ah non, alors c'est pas, ah non, je suis pas dans mon livre, je suis dans Job. C'était pour ça que c'était pas du tout ce que je cherchais. C'est plutôt le psaume 27, 3 qui dit, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Non, c'est pas ça non plus. Je me suis de nouveau trompé. Hey, c'est la première fois que je me trompe deux fois de suite. Alors, je recommence. Le psaume 27, 3. 27 et le verset 3. Si une armée se campait contre moi. Voilà. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Voilà, le chrétien, lorsqu'il contemple l'Éternel, eh bien, il est sans crainte. Même si une armée vient contre lui, c'est quand même extraordinaire. Ça me rappelle l'illustration de Jésus. Il y avait un orage. Il y avait un bateau, les disciples étaient dedans. L'orage était violent, c'était tous des marins professionnels. L'orage était mauvais parce que les marins paniquaient. Pierre et compagnie, tous les disciples paniquaient. Et ils sont allés voir Jésus dans le bateau et lui dormait. Dormait pendant la tempête. Et Pierre doit le réveiller. Jésus, 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 s'il te plaît, sauve-nous. Jésus dit, mais Cardéloire, pourquoi vous avez peur? Ne savez-vous pas que j'ai le pouvoir sur la nature, et en un instant, boum, l'orage s'arrête. Jésus arrête l'orage. Dans ce cas, il a arrêté l'orage, bien sûr. Mais voilà ce qu'on est en train de voir ici. On est sans crainte parce qu'on est avec le Seigneur. Il est avec nous dans l'orage. Jésus était avec eux dans cet orage. Donc, premier point, le croyant est rassuré. Le croyant est rassuré. Le psaume 46 nous donne un deuxième effet bienfaisant de se confier en l'Éternel en heure de crise. D'accord? Alors, il est très similaire au premier, mais on va l'accentuer un petit peu plus. Non seulement le croyant est rassuré, mais deuxièmement, le croyant est accompagné. Accompagné. Le croyant est accompagné, les versets 5 à 8. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Pause. Regardez le verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dans le verset 5, le psalmiste fait un contraste entre les eaux turbulentes décrites dans le verset 4, on l'a vu, et un fleuve ou le fleuve paisible qui découle de la cité de Dieu. Alors, est-ce qu'il décrit un endroit géographique? Alors, pas nécessairement, bien que certains pensent qu'il fait un contraste entre le Tigris, donc la rivière du Tigris ou le fleuve du Tigris en Babylonie, et le Kidron à Jérusalem. Ce qui est certain, c'est que le psalmiste veut décrire une image de paix et de tranquillité. La rivière de Dieu est un fleuve calme dont les eaux avancent paisiblement comme symbole de la paix et de la bénédiction de la présence de Dieu au sein des tumultes planétaires, symbolisés par les flots de la mer qui mugissent et qui écument, on l'a vu tout à l'heure. Je pensais à la mer Atlantique. Parfois, sur la télé, quand on voit des images de pêcheurs dans la mer Atlantique, c'est des monstres vagues, les bateaux qui sont ballottés avec du vent. C'est vraiment la mer de l'Atlantique. Et ça, avec le contraste, souvent, quand on va se promener dans les montagnes, ici en Suisse ou en France, dans les Alpes, il y a par exemple, tout d'un coup, on voit un lac absolument tranquille, avec le reflet parfait de la montagne juste derrière. Et voilà un petit peu le contraste ici que le psalmiste est en train de faire entre cette mer agitée et un lac totalement paisible. Alors pourquoi une telle paix? Ben il le dit, car c'est le sanctuaire des demeures de Dieu, là où Dieu réside. Écoutez, là où Dieu réside, il y a la paix. Là où Dieu demeure, le calme, il y a sérénité. C'est intéressant cette image de la rivière de Dieu dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, il y avait une rivière dans le jardin d'Éden, d'accord, qui donnait de l'eau à ce jardin pour que ce jardin soit beau et parfait. Et dans Apocalypse 22, tout à la fin de la Bible, dans la Nouvelle Jérusalem, eh bien, nous avons exactement la même chose. Une rivière réapparaît, chapitre 22, verset 1 d'Apocalypse. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et on ne peut qu'imaginer le trône de Dieu, le trône de l'agneau, dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, avec cette rivière qui sort. On ne peut qu'imaginer la beauté de cette rivière qui sort directement du trône de Dieu. Je trouve intéressant, je fais le lien dans Jean 14 parce que Jésus lui-même nous promet quoi? Dans Jean 14 et le verset 27, quel beau, beau verset, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde ne peut pas vraiment donner la paix. Bien sûr, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point parce que je vous donne ma paix. Donc, voilà ce qu'il est en train, l'image qu'il est en train de montrer ici, d'accord? Et donc, Dieu est au milieu de nous. Et donc, n'est point ébranlé, verset 7, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Tandis que le monde est en train de vivre en bouleversement total, les versets 1 à 4, Dieu est au milieu de la cité de Dieu, Dieu est au milieu du peuple de Dieu, il est là, il est présent. Et de ce fait, nous ne sommes pas ébranlés et pas secoués, nous sommes fondés sur Dieu, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Et ouais, une délivrance le matin est tellement appréciée. Alors ça, c'est le contraste avec les versets 7 à 8. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quel verset étonnant. Oui, les nations s'agitent. Comme nous le voyons aujourd'hui face à la catastrophe que nous connaissons. Une épidémie planétaire, la maladie, la mort, la peur, le monde entier aujourd'hui s'agite. Devant nos yeux, on le voit. Les royaumes sont ébranlés, verset 7. Mais il y a une chose curieuse au verset 7. Il dit « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. » La question ici est « Comment Dieu fait-il entendre sa voix qui fait que la terre fond d'épouvante ?» Hein, c'est ce qu'il dit. La voix de Dieu est entendue et la terre est épouvantée. Alors, comment est-ce que ça marche ? Ésaïe 30, 30. Ésaïe 30, 30 dit ceci. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Et à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. C'est très intéressant ce qu'il est en train de dire ici. C'est qu'une des manières que la voix de Dieu peut être entendue, pas juste du verbal, mais c'est par ses jugements. C'est par ses jugements. C'est comme Ésaïe 29, 6, où il dit, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Avec des coups de tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête. Cela vient de l'Éternel. Dans le petit livre d'Habacuc, très intéressant, Habacuc 3, 3 à 7, Dieu vient du Téman, le Saint vient de la montagne de Paran, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, le réside de sa force, devant lui marche, écoutez bien, la peste. Et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il la mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers autrefois ouvrent des vents. Et le verset 12, tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. C'est très intéressant que ce verset dans Habacuc et les autres que je viens de lire disent que Dieu envoie, et le verset 5, de Habacuc 3 dit bien, même la peste, pour verset 7, que les pays soient épouvantés. Et le mot pour épouvanter, peur violente et soudaine causée par quelque chose d'extraordinaire et de menaçant. Donc, le verset 7 de nos psaumes dit bien ça, il fait entendre sa voix, et la terre se fond d'épouvante. Comment? Eh bien, par des jugements et des catastrophes extraordinaires. Et ça, on l'a vu la semaine dernière, Dieu, il est saint, il est juste et il doit juger parce que les hommes sont pécheurs et méritent le jugement de Dieu. Et donc, ce sont des rappels. Ce sont des rappels que Dieu est là et que les hommes vivent leur vie, mais qu'ils ont un problème moral qui s'appelle le péché et qu'ils doivent un jour rendre compte à Dieu. Et Dieu envoie parfois ces choses pour réveiller les hommes et leur dire, écoutez, il y a autre chose que juste votre vie. Il y a moi, l'Éternel. L'Éternel. Et je dois te juger, mais je ne veux pas te juger. Donc, je t'ai offert mon Fils Jésus-Christ pour que lui te pardonne tes péchés. Mais il faut venir à lui par la foi. Il faut venir par la foi. Donc, Dieu parle de cette manière. Verset 7, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Mais voici la bonne nouvelle au verset 8. L'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et ça, c'est ce que j'aime. Et ça, c'est le point de ce deuxième point. L'Éternel des armées est avec vous. Waouh! Dans la détresse, dans les problèmes, dans cette période de jugement, Dieu, l'Éternel, est avec nous. Ça vous rappelle un verset que vous connaissez très très bien? Le psaume le plus connu par le monde entier. L'Éternel est mon berger, le psaume 23. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maintenant, écoutez bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ah, c'est très intéressant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi, c'est ce qu'il dit, il est avec moi. C'est pour ça que je crains aucun mal. Est-ce qu'il promet de m'enlever? Non. Est-ce qu'il promet d'adoucir ou d'enlever le problème? Non. De m'enlever du problème? Non. Non, il promet d'être avec moi dans le problème. Waouh! Waouh! Et pourquoi est-ce que c'est réconfortant? Parce que le psaume 102 nous dit ceci. Le psaume nous apprend que Dieu ne change jamais, même si le monde change. Le psaume 102 et le verset 26 dit « Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. » C'est incroyable. Dieu a créé la terre. Puisqu'il l'a créée, il existait avant la terre. La terre disparaîtra, les gens disparaîtront, mais lui subsistera. Donc, si je m'attache à lui, lui qui est là, lui qui subsiste, lui qui contrôle tout, eh bien, forcément, il va me consoler. Parce qu'il est avec moi. Écoutez, Jésus a dit la même chose. Jésus a dit dans Matthieu 28 et verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Écoutez, mes amis, Jésus est en moi, Galates 2:20, et il est avec moi jusqu'à la fin du monde. Alors oui, il y a des problèmes, il y a des catastrophes, il y a des calamités, il y a des hauts et des bas, c'est vrai, la vie est comme ça, la maladie nous frappe, il y a des pestilences, il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses, mais la constante, c'est Dieu, l'Éternel, il est là, il est avec moi, il contrôle jusqu'à la fin du monde. Et pour toute l'éternité, parce que Christ est mon sauveur. Parce que Christ est mon sauveur. Donc vous voyez, premièrement, ce psaume nous dit que le premier bienfait de confier sa vie à l'Éternel en dehors de Christ, c'est que nous sommes rassurés. Deuxièmement, que nous sommes accompagnés. Mais il y a un troisième effet bienfaisant de se confier en l'Éternel en l'ordre de Christ qu'on trouve dans les versets 9 à 12. Le croyant, troisièmement, est émerveillé. Émerveillé. Venez, verset 9. Contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de la guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Il le répète. D'accord? Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Écoutez, vous savez ce qu'il fait ici? Le psalmiste dit, il invite le lecteur, le chanteur, parce que c'est un psaume qu'il vient de chanter, à venir voir et contempler. Il dit, viens. Viens, regarde les œuvres de l'Éternel. Mais c'est pas ce qu'on pense, parce que nous, souvent, quand on pense aux œuvres de l'Éternel, on pense à toutes les bonnes choses qu'il a faites. Alors, ça, c'est vrai aussi, hein. Il y a le psaume 19, 119 qui nous parle qu'il faut contempler la création de Dieu et être émerveillé par lui. Mais ici, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Parce qu'il dit, regardez, venez contempler, verset 9, les œuvres de l'Éternel, virgule, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Tiens. Venez contempler les œuvres de Dieu, c'est-à-dire les ravages qu'il a opérés sur la terre. Waouh! Donc on apprend que certaines œuvres de Dieu créent des ravages sur la terre. Donc ce sont des choses terribles pour les hommes, comme ce qui est décrit dans les versets 1 à 4, tremblement de terre, etc. Et même pestilence, guerre, etc. Enfin, toutes ces choses. Au verset 10, on apprend que les œuvres de Dieu peuvent être positives, car Dieu peut faire cesser les guerres. C'est ce qu'il dit. Alors, il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Maintenant, bonne chose qu'il fait. Verset 10, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de la guerre. Tiens. Donc, la première chose qu'il dit, c'est que Dieu peut arrêter des guerres. OK? Je vous donne un exemple. Deux rois, 19, 35. Il y a une monstre guerre entre les Israéliens et les Assyriens, c'est les ennemis. Et à un moment donné, le roi Ézéchias prie pour la délivrance du Seigneur. Et alors, tenez-vous bien, deux rois, verset 10, chapitre 19, verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. L'Éternel a fait cesser cette guerre ou ce combat en tuant 185 000 Assyriens d'un coup. Parce que la Bible dit. Et c'est ce que le psaume 46 dit aussi. Alors, tenez-vous bien. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Dieu déclenche aussi des guerres? Il déclenche des guerres. Vous dites, quoi, John? Non, mais écoutez, 2 Chroniques 33, 11 et 12, dit ceci. Alors l'Éternel fit venir contre eux, Israël, Juda, les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, ils le lièrent avec des chaînes, des reins et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Donc là, ce qu'on apprend, c'est que Dieu, pour juger Israël, envoie l'armée du roi d'Assyrie et capture le roi. Dans Habacuc, qu'on a vu tout à l'heure, très intéressant, dans Habacuc 1, chapitre 1, verset 5, il est dit « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre, dit le Seigneur, que vous ne croirez pas si on vous le racontait. » Il dit, je vais faire un truc, vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça va être. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur la proie. Et il continue pour expliquer que Dieu amène ce peuple de nouveau pour juger. Et il dit au verset 12, « N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon Saint ? Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Voyez, Dieu, ici nous apprenons quelque chose d'extraordinaire sur la providence de Dieu. Dieu est le roi des rois. Il est notre créateur tout-puissant, il peut juger la terre et utiliser des phénomènes naturels comme des tsunamis, des tremblements de terre pour juger les peuples, comme il peut utiliser le déclenchement de guerre pour juger les peuples, comme il peut utiliser un virus aussi pour juger les peuples. Donc, le verset 9 nous invite à contempler les œuvres de l'Éternel et les ravages qu'il opère sur terre. C'est quand même incroyable ce qu'il est en train de nous dire. Donc, le croyant consulte la parole de Dieu, il regarde toutes ces histoires, il se dit « Waouh ! Mais Dieu est vraiment puissant, il contrôle vraiment tout ! Waouh ! Je suis rassuré !» Seulement. Et je suis émerveillé par la puissance de Dieu. Il peut démarrer une guerre et l'arrêter. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et je veux dire un truc, mes amis. On est tellement avantagés d'avoir la parole de Dieu parce que le psaume 119, 143 nous dit ceci. Écoutez bien, notez-le. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Écoutez, quand tout va mal autour de nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, ce qu'on devrait faire automatiquement, c'est de consulter les œuvres de Dieu pour comprendre qui est Dieu et sa puissance. Et si je fais ça, je serai émerveillé. Émerveillé. Alors, je conclue. Le croyant est rassuré. Le croyant est accompagné. Le croyant est émerveillé. Alors, moi, j'aimerais en tirer trois leçons. D'accord? Numéro 1, première leçon. La voici. Dieu est Dieu. Première leçon. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je domine sur les nations, je domine sur la terre. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Est-ce que Dieu domine aujourd'hui dans la situation du virus? Oui. Est-ce que Dieu est encore Dieu? Oui. Il nous invite à le savoir. Est-ce que tu sais qu'il est Dieu? J'espère que tu peux répondre oui. Est-ce que tu sais qu'il domine sur les nations? J'espère que tu peux répondre oui. Est-ce qu'il domine sur la terre? Oui. Est-ce qu'il domine sur ce virus? Oui. Oui. Absolument oui. Deuxième leçon. L'Éternel des armées est avec nous. Est avec nous. C'est exactement ce que le psaume 23 nous a dit. Quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Quand les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient dans la fournaise ardente, ben c'est intéressant, je vais quand même vous lire parce que c'est vraiment intéressant. Dans Daniel 3, 17, ils ne refusent de se prosterner devant le roi et d'être idolâtres. Et donc, au verset 17, il est dit dans Daniel 3, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. » Parce que le roi dit, « Si vous ne vous prosternez pas, vous irez dans la fournaise ardente et vous serez brûlés. » Donc, ils disent, écoutez, Dieu peut nous délivrer parce que Dieu est Dieu et Dieu est puissant. Verset 18, « Sinon, s'il décide de ne pas nous délivrer au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous ne t'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Donc, ils disent, écoute, que je sois épargné ou pas, que je sois brûlé ou pas, c'est égal. C'est égal, nous ferons ce que Dieu veut que nous fassions et nous ne prosternerons pas devant toi. Il peut nous délivrer, il peut ne pas nous délivrer. Ça, c'est même pas la question. Nous savons qui est notre Dieu. Mais regardez la suite. Au verset 25, on les jette dans la fournaise ardente. Et donc là, il y a une sorte de grille pour qu'on puisse voir ce qui brûle à l'intérieur. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, le roi dit au verset 25, verset 23, « Les trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent, « Oui, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal à la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Vous savez qui était cette quatrième personne? C'était Jésus-Christ incarné avant l'Ancien Testament, avant son incarnation ici. D'accord? C'était Christ, l'ange de l'Éternel. Il était avec eux dans cette fournaise et Dieu dans cette fournaise ardente et Dieu dans ce cas a décidé de les délivrer. Voici le cas avec nous. Dieu est avec nous dans cette crise. Je pourrais mourir ou pas. En fait, c'est secondaire. L'important, c'est qu'il est avec moi maintenant dans cette crise. Et ça, ça mène au troisième conclusion, troisième application, troisième leçon. Le Dieu de Jacob, Israël, verset 12, est pour nous une haute retraite. Je peux me réfugier en lui. Donc, ce psaume confirme bien que dans les crises les plus profondes de la vie, le croyant est rassuré, accompagné et émerveillé. J'espère que c'est le cas pour toi. La personne que je connais qui va faire son dernier paiement pour sa maison peut donc respirer tranquillement par rapport à son avenir incertain sur terre, car ce psaume lui apprend que quoi qu'il arrive, il peut être rassuré. Amen. Il est accompagné. Amen. Et qu'il peut être émerveillé par ce que Dieu est en train d'accomplir dans le monde aujourd'hui. Et cela lui permettra de sourire avec une pleine confiance quant à son avenir, quel qu'il soit sur terre, parce que le Seigneur est avec lui maintenant et pour l'éternité. Viens Christ et reçois sa paix. Seigneur, merci de tout cœur pour ce psaume 46 qui est extraordinaire, Seigneur. Et nous te demandons de vraiment l'appliquer à chacun de nos cœurs, avec toute la panique autour de nous. Seigneur, que, s'il te plaît, permets-nous d'être tous rassurés, accompagnés et émerveillés par qui tu es. À toi, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir accompagnés, mes chers amis. C'est un immense plaisir de pouvoir utiliser ce moyen technologique pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et bien sûr, il sera posté sur le site très bientôt. Et un lien, vous pourrez envoyer à d'autres personnes si ça peut encourager d'autres personnes. Et on se réjouit de vous voir dimanche prochain, à la même heure, pour un autre message. J'ai pas encore décidé ce que je vais prêcher, mais vraiment... Je vais être sensible à nos besoins, mais que le Seigneur vraiment bénisse votre semaine. Et n'oubliez pas, peut-être, choisissez une personne que vous connaissez dans l'Église et appelez-les cette semaine, d'accord? Je pense qu'on doit vraiment faire un effort entre nous tous de nous appeler, de nous contacter, de prier les uns pour les autres. Moi, j'ai une liste devant moi, vraiment, une liste de personnes, et j'essaie d'en appeler une, deux, trois fois par jour, quelqu'un. Ce qui est super maintenant, c'est que tout le monde est à la maison. On sait que tout le monde est là, donc... Appelez-nous, appelez-les, et comme ça, on va vraiment faire un partage. Utilisez Zoom, utilisez Skype, on a les moyens technologiques pour pouvoir s'encourager mutuellement. Donc voilà, merci, que Dieu vous bénisse richement, et à dimanche prochain. Au revoir.